Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de parler de la modélisation d'une base de données. En effet, jusqu'ici, on a montré ce qu'est le modèle sous-jacent aux bases de données relationnelles. On a montré comment utiliser une base de données depuis Python. Mais au fond, on a toujours présupposé l'existence de cette base de données. On va regarder cette vidéo, comment est-ce qu'on passe d'un problème à une base de données. Ce que vous trouvez en général dans la littérature, ce sont trois étapes qui apparaissent sous ces termes. Établissement du dictionnaire de données, étude des processus et étude des besoins. Dit de manière peut-être un peu plus claire, ça va être faire la liste des objets ou des entités manipulées. Regarder les liens, les interactions entre ces différents éléments et faire la liste des questions que vous souhaitez poser à votre base de données. Ce que vous allez produire, en général, c'est un diagramme qu'on appelle entité association, dont je vais donner un exemple immédiatement, toujours en reprenant mon exemple de ma vidéothèque. Donc je réfléchis à la manière de modéliser mon problème. Ici, il s'agit de représenter principalement des films. Et je vais faire l'hypothèse que ce qui m'intéresse, c'est de savoir quelles personnes ont participé à la construction de ces films et comment ces films ont été produits. Donc ça, c'est le début de mon dictionnaire de données, je fais la liste des entités qui m'intéressent. Ensuite, pour chaque entité, je vais regarder quelles sont les propriétés qui m'intéressent. Donc pour un film, par exemple, je vais être intéressé par le titre, l'année de publication, le fait de savoir ses couleurs en noir et blanc, etc., etc. Et pour une personne, chose très classique, je vais être intéressé par l'identité de cette personne, donc son nom, peut-être sa date de naissance et sa nationalité. Et pour un studio, un peu la même idée, je vais être intéressé par son nom, sa date de naissance, entre guillemets, et sa nationalité. En termes d'interaction entre mes entités, l'interaction évidente, entre guillemets, entre un studio et un film, ça va être qu'un studio produit un film. L'interaction entre film et personne, ça va être l'idée qu'une personne participe à un film. Ici, le lien entre mon entité personne et mon entité film est un peu plus fin, entre guillemets, que le lien entre studio et film, parce que pour chaque participation, je vais avoir envie de me souvenir de l'activité de la personne. Est-ce que c'était le réalisateur? Est-ce que c'était un acteur? Ce genre de choses. Je pourrais avoir la même chose dans produit si ici, je m'intéressais à la somme mise en jeu, par exemple. Une fois que j'ai établi ce diagramme avec d'un côté mes entités, donc mes personnes, mes films et mes studios, et mes associations, produits et participent, je vais me poser la question des cardinalités entre les liens ces différents éléments. Et mes cardinalités, en général, vont prendre une de ces quatre formes, 0 ou 1, exactement 1, 0 à n, 1 à n. Ça doit évidemment vous rappeler quelque chose sur la modélisation UML. Ce n'est pas un hasard. D'accord, ce sont des manières de réfléchir aux liens entre les éléments qui sont communes. Une fois, c'est O plus 1, exactement 1, un nombre quelconque, au moins 1. Si je me pose la question des cardinalités sur mon exemple, je peux arriver à la chose suivante, qui est qu'un film va être concerné par la relation participe qui le lie à personne un certain nombre de fois. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui participent à la fabrication d'un film, et vraisemblablement, ça ne peut pas être zéro. Voilà. Donc, cette cardinalité est 1n, de manière relativement évidente. Peut-être une cardinalité un peu moins évidente, ou sur laquelle on peut du reste discuter. Ici, j'ai mis un N entre personne et participe. Ça veut dire que je considère qu'une personne, une seule personne, peut participer autant de fois qu'elle veut à un film. L'idée, ici, c'est de dire qu'une personne peut être à la fois... Enfin, participer à la fois en tant qu'acteur, réalisateur, peut-être scénariste. Donc, il n'y a pas de raison ici de mettre un 1. Mais si je décidais qu'une personne ne peut avoir qu'un rôle dans la construction d'un film, je mettrais ici un 1. De la même manière, mes cardinalités entre film et studio me permettent de dire des choses relativement fines et probablement d'ailleurs inexactes. Enfin, c'est le choix de modélisation que j'ai fait ici. Ce que je dis ici, c'est que le studio peut participer à un nombre quelconque de films. Et ce qu'il y a derrière ce 1-1 ici, entre film et produit, ça veut dire qu'un film est produit par exactement un studio. Quand je disais que ça dit des choses un peu fines sur un modèle, c'est-à-dire que par construction de mon modèle, là, j'écarte la possibilité de coproduction, pour dire simplement. D'accord ? À chaque fois, le film ne sera produit que par un studio. Donc, c'est probablement pas vrai, mais voilà, c'est juste pour montrer à quel point les cardinalités disent des choses relativement fines sur votre modèle. Ce qui est intéressant, une fois que vous avez construit votre modèle entité-association, c'est que vous pouvez en dériver les tables de votre base de données. Et en particulier, ce qui va se passer, c'est que partout où vous avez une entité, vous allez avoir une table. Et les propriétés que j'ai listées dans mon diagramme vont être évidemment les colonnes de ma table. Partout où je vais avoir une association avec une cardinalité au plus 1, ça va être traduit par l'ajout d'un attribut de ma table. Et partout où j'ai une association non bornée, je vais devoir ajouter une table à mon schéma. Sur l'exemple précédent, je ne vais évidemment pas décrire tout ce qu'il y a sur ce transport, mais juste pour donner une idée de la manière dont ça se réalise en pratique, je vais donc avoir des tables qui correspondent à mes entités, personnes, films et studios de mon modèle. Aucune surprise, comme j'ai dit, les colonnes sont simplement les propriétés que j'ai listées sur mon diagramme entité-association. Là où ça devient plus intéressant, c'est ce que j'ai dit sur la manière de traduire les associations dans la base de données. Et ce que vous voyez, c'est que participe, puisqu'il a une cardinalité non bornée, va constituer une nouvelle table. Et cette table va me permettre, par un système de clés primaires et de clés étrangères, de faire le lien entre film et personne, selon une certaine activité. Donc vous voyez que pour faire le lien entre mes tables film et personne, j'ai une table intermédiaire avec deux colonnes, une qui va parler du film, une qui va parler de la personne, de telle manière que je peux relier ces informations. Et l'autre chose intéressante sur ce transparent, c'est que là où j'ai eu une cardinalité qui était au plus 1, qui correspondait à mon association entre film et studio, vous voyez que je vais avoir une simple colonne ici qui va me permettre de faire le lien avec le studio. C'est marqué ici par cette clé étrangère. Donc vous voyez, je n'entre pas dans les détails, mais vous voyez que vous dérivez mécaniquement la structure de votre base de données, le schéma de votre base de données, de votre diagramme entité-association pourvu des cardinalités. Pour terminer cette vidéo, un point sur ce qu'on appelle les formes normales. Il s'agit de critères de qualité de votre base de données. Ce qui fait qu'il est parfois un peu difficile de raisonner sur ces formes normales, c'est qu'il faut imaginer que ce sont des critères sur la structure et pas sur le contenu à un instant donné. Donc, il faut essayer d'imaginer que ces formes normales s'appliquent quel que soit le contenu actuel et futur de votre base de données. Et ce qu'on va voir sur l'exemple que je vais présenter dans les transparents qui suivent, c'est que ces formes normales sont organisées hiérarchiquement. En l'occurrence, je vais présenter les trois premières formes normales qui sont, à mon avis, les plus intéressantes. Et si vous les respectez, vous avez quasiment la garantie d'avoir une base de données de bonne qualité. Première forme normale, très simple, elle consiste simplement à dire que chaque valeur d'attribut est atomique. D'accord. Dit autrement, ce que j'ai dans chaque case de ma base de données, c'est atomique. On peut en discuter, mais vraisemblablement, la base de données que j'utilise comme exemple dans les vidéos précédentes n'était pas atomique parce que dans metteur en scène, j'avais le nom complet de la personne. L'exemple raffiné de ma base de données dans cette vidéo, qu'on a construit petit à petit, avec en particulier ma table personne, est atomique parce que j'ai séparé le nom du prénom, par exemple. L'objectif, c'est évidemment un objectif de structuration des données. Vous voyez aussi que le fait d'avoir mis personne dans une table à part, ça va m'éviter les redondances. C'est-à-dire que chaque personne n'apparaîtra qu'une fois, alors que dans l'ancien modèle que j'utilisais dans les vidéos précédentes, metteur en scène, si j'avais plusieurs films réalisés par la même personne, j'allais avoir la même chaîne de caractères qui serait répétée, avec évidemment les risques de faute d'orthographe et donc de désynchronisation des données. Pour avoir une base de données en deuxième forme normale, il faut être en première forme normale. C'est le caractère hiérarchique dont j'ai déjà parlé. Et il faut s'assurer que lorsque vous avez un attribut ou une colonne qui ne fait pas partie de la clé primaire, il ne dépend pas que d'une seule partie de la clé. L'idée derrière ça, c'est d'avoir une définition minimale de ce qu'est votre clé primaire. Et la troisième forme normale, qui s'appuie sur la deuxième, encore une fois, c'est le caractère hiérarchique. Donc, être en troisième forme normale, c'est donc être en deuxième forme normale et donc, par conséquent, être déjà en première forme normale. Mais ce que rajoute cette troisième forme normale, c'est que tout attribut en dehors de la clé primaire ne doit pas dépendre d'un attribut qui est en dehors de la clé. Et d'une certaine manière, c'est le dual de la forme normale précédente. L'objectif, c'est d'avoir une définition complète de la clé primaire et qui soit absente de redondance.